Effectivement, on n'a pas de réaction de Mutesa par rapport à Stanley. Mais par contre, on a beaucoup de ces réactions par rapport aux gravures qu'a fait Fesquik et Grant. Et là, on a tout un tas de réactions du roi. Bon, d'abord, on a pris un portrait, donc on sait comment ça s'est déroulé à ce moment-là. Et notamment, on a des démonstrations à partir du livre et des gravures qui sont dedans dans les années 1880. C'est-à-dire, dans les années 1880, il va brandir le livre pour justifier son pouvoir.
Oui.
Pour dire, voilà, je suis plus important que Saïd Bargash, parce qu'il est à l'intérieur du livre, moi je suis à la couverture, je suis plus important qu'un autre, qui est aussi. Donc il y a tout un tas de jeux là-dessus, qui vont dans le même sens, qui est celui aussi de se demander pourquoi est-ce qu'il accepte de poser.
Oui.
Et pourquoi il accepte de poser, c'est parce qu'il cherche la reconnaissance internationale.
Et un appui.
Et donc il faut qu'il fasse, si la reine Victoria fait quelque chose, il va faire la même chose. Donc, il y a tout un
jeu
là-dessus. Alors, je
ne
vais pas aller beaucoup plus loin, je vais passer.
Ça ne marche
pas.
Ça marche.
Si, ça marche.
Vous allez faire 100 pour réussir.
Non, plus.
Ça marche. Il faut faire semblant, ça marche.
On l'a fait. Alors, j'ai une question à propos de l'image, de l'objet de l'image. Parce que je trouve ça très intéressant que Moutessa, il connaît comment on pose déjà. Et je m'intéresse surtout dans ces relations avec la côte de l'Afrique de l'Est, parce qu'on a eu beaucoup de photographes des années 60. Alors, je crois que les objets, les images eux-mêmes ont voyagé. Et c'est pourquoi peut-être il y a déjà une connaissance de la photographie comme technique chez les rois indigènes. Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est-à-dire que c'est une plaque tournante, c'est-à-dire qu'il y a des va-et-vient de voyageurs qui, c'est une zone de transit où ils s'arrêtent, etc. Donc effectivement, ce ne serait absolument pas étonnant d'avoir eu Tessa au-delà des voyageurs d'origine européenne qui auraient été tout à fait familiarisés avec un art du portrait à l'occidental.
Oui. Tout à fait. Et aussi les images eux-mêmes, parce que elles-mêmes qui voyagent comme les objets de prestige.
Bien sûr. Là, c'est effectivement finalement le je dirais l'échange que j'ai cité tout à l'heure de French Alden, qui ni l'un ni l'autre ne sont étonnés de se retrouver à s'échanger des images ou à parler d'images et de portraits. Donc on est dans un cadre de rencontre et de diplomatique qui permet justement d'inscrire cette représentation à la fois personnelle et donc également politique dans le cas de Mutesa, puisque effectivement il y a un contexte un petit peu particulier qui fait qu'il cherche à s'ancrer durablement localement par rapport à des frictions dans la zone qu'il a et autour de la zone qu'il a sous sa responsabilité. Donc c'est un thème et c'est une manière également de fonctionner aussi bien pour les dirigeants que pour les voyageurs qui s'arrêtent.
Ici. Oui, non, mais ça me faisait penser, en gros, je sais pas, je crois que dans la culture aborigène, tout est parenté, je crois. Tout est lien de parenté. Et en fait, ce que vous avez voulu montrer, c'est que tout était finalement pouvoir et religion. Enfin, tout était lié, tout était imbriqué. Mais si les autorités traditionnelles, s'effondrent durant la période coloniale, est-ce que tout le système n'est plus à revoir aussi, à force, avec cet effondrement? Je me demandais simplement ça, si tout le système n'est plus à relire, de fait.
Ce que j'ai voulu montrer surtout, c'est que justement le système fonctionne sur deux pattes en quelque sorte. À la fois un jeu d'institutions héritées de la période coloniale, d'une démocratie parlementaire entre guillemets, etc., avec des élections, et puis un jeu politique qui s'inscrit encore, avec bien sûr un certain nombre de transformations, dans l'héritage des fonctionnements des institutions des royautés. Et en particulier, disons, sur le modèle d'ailleurs de... sur des modèles de légitimation du pouvoir liés à la nature même de celui qui peut l'exercer à certains moments, et sur des modèles aussi qui renvoient aux anciens cultes de possession royaux. Et c'est ça qui est assez intéressant. Enfin, ça sera une deuxième partie intéressante à montrer, si vous voulez. Vous avez d'un côté, aucun des dirigeants politiques malgaches actuellement ne se trompe là-dessus. Ils savent très bien quel discours ils tiennent entre eux dans le jeu des institutions héritées du système européen, disons. Et ils savent très bien aussi comment ils maintiennent, et comment, difficilement d'ailleurs, ils essaient de maintenir la réalité effective de leur pouvoir dans chacune des zones qu'ils, disons, qu'ils représentent à certains niveaux, comme députés ou autres, à travers d'ailleurs l'exercice d'une forme qu'on peut l'appeler classique et évidente, qui passe par le clientélisme, disons, le plus structurel. Savoir qu'un grand nombre de gens dépendent actuellement des dirigeants pour leur vie quotidienne, qui, bon, vous savez bien que dans ce pays, sauf pour certaines entreprises dans la capitale et dans deux ou trois autres grandes villes, il n'y a absolument aucun système de sécurité sociale, par exemple, et d'assurance chômage ou de choses de ce genre. Donc la seule chance de survie économique et sociale des gens passe par leur intégration dans un système de clientèle qui est directement lié à l'héritage des anciennes royautés.
Merci. Je voudrais poser une question à M. Omer, justement à propos des possessions. Je voudrais savoir si... Justement, au cours de ces possessions, il y a des cas d'intervention des ancêtres qui utilisent ce bien pour attester ou contester une succession politique, succession au pouvoir.
Écoutez, je ne peux pas vous donner un exemple concret. Je ne peux pas vous donner un exemple concret en réponse à votre question qui est très précise. Mais ce qu'on peut dire, c'est que rien n'est impossible. Le principe de la possession... Enfin, si vous voulez, la possession par les esprits royaux ne fonctionne plus en tant que telle, puisque la royauté, en tant que système politique, n'est plus en exercice. Il existe encore, sous une forme folklorisée, des rituels qui font appel à la présence, comme ce que je vous ai montré, où on voit une dizaine de possédés royaux. Mais c'est au moment du bain des reliques, et si vous voulez, c'est largement... C'est un rituel qui n'a plus de réalité politique effective, qui continue... avoir une grande valeur symbolique, qui est d'ailleurs réutilisée par l'administration, en particulier les ministères de la culture, pour construire une image, si vous voulez, d'un passé à usage des touristes en particulier, d'un certain passé fabuleux de ce pays, pour montrer qu'il a son histoire, sa densité, son identité, etc., etc. Mais il ne fonctionne plus du tout comme ça. Par contre, la possession fonctionne à un autre niveau dans cet héritage, si vous voulez, mais... qu'elle permette de contester, qu'elle permette de contester une filiation généalogique, je ne sais pas si je vois mal comment la question pourrait déboucher, si vous voulez, disons, dans le cabinet d'une possédée en tant que telle. Je pense que c'est dans d'autres lieux que ça pourrait se faire, mais ce que je peux vous dire en tout état de cause, c'est que, par définition, sauf celles qui sont vraiment attestées, alors là, par des écrits, la contestation d'une filiation généalogique est une chose extrêmement facile à faire pour des spécialistes de la chose, mais à un autre niveau. Par exemple, quand il s'agit de manipuler la tradition orale proprement dite, quoi. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se ferait.
Oui, ce qui m'a surpris, c'est ce rapport entre les gens qui sont assis et ceux qui sont debout, parce que ça m'a énormément étonnée, parce que ce que j'ai vu, moi, en Péliani, dans le monde en général, c'est que quelqu'un qui a une autorité quelconque doit être assis, et ce sont les serviteurs qui sont debout. Ça m'a beaucoup surpris.
Ce que je voulais dire là, en montrant cette image, c'est que quand on n'a pas un statut élevé, on ne se tient pas debout à côté de quelqu'un qui peut en avoir un et qui est assis. quand je parlais des règles de la politesse. Et pour l'avoir vécu deux ou trois fois sans y faire attention, puisque moi je me baladais par-ci par-là, et que naturellement je n'avais pas intégré ces choses. Et même si j'y faisais attention avec un certain volontarisme, n'empêche que tu es tout le temps, à un moment, tu commets des tas d'impolitesses. Et plusieurs fois, on m'a fait remarquer, mais qui es-tu toi à te tenir debout alors qu'on est tous assis? Combien de fois? Et c'est pour dire que c'était simplement pour vous dire, parce que là c'est un petit exercice pour qu'on baigne dedans, si vous voulez. C'est pour vous dire combien les gens ont intégré leur image dans l'espace constamment. Et d'ailleurs, un malgache qui en rencontre un autre, quand ils ne se connaissent pas, la première chose qu'ils cherchent à comprendre, c'est quel est celui qui pourrait être debout quand l'autre est assis. Ça, c'est la première chose. C'est rien, c'est petit, c'est une petite chose, mais c'est ça qui. C'est leur corps l'un face à l'autre. Il est évident que quand on est un étranger, on doit faire un effort pour avoir ce genre de réflexe. C'est quasiment impossible, je dirais.
En revanche, le niveau auquel est installé un fauteuil, un siège, par rapport au niveau inférieur, ça compte énormément.
De la même manière qu'à Madagascar, bien sûr.
Les détenteurs de pouvoir, ils sont sur une sorte de podium.
Christophe.
J'ai une autre question à propos, je crois que ça ne marche pas.
Non, voilà.
Ça vient pas naval. Il y a beaucoup de photographies, et c'est la première fois que j'ai vu le film, arrivant à Paris.
Algérie.
Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'elle a commencé avec la photographie avec le Gemellus.
Oui, oui, oui.
Alors, est-ce qu'il y a déjà une histoire? Parce que je crois que c'est vraiment intéressant. Hein.
Vous voulez dire une histoire de
ce... la photographie et son usage de photos?
Écoutez, malheureusement, moi, ce sont des archives qu'on a pu réunir là, à l'occasion d'une manifestation. On a présenté des images anciennes sur Madagascar. Et estimant que c'est extrêmement important de pouvoir justement collationner ce type d'image pour pouvoir prendre une mesure particulière. Et quand on voit des images de ce type, ça fait réfléchir tout de suite d'une autre manière. Et je sais qu'il y a d'autres documents comme celui de Mélisse et d'autres. Malheureusement, personnellement, je ne connais pas l'iconographie la concernant. Mais il y a sûrement une recherche et même une enquête qui pourrait être menée dans ce sens et qui permettrait de réunir en particulier les documents à Alger. Là, je ne vous ai pas tout montré, mais la maison, la résidence, sa résidence à Alger était déjà un petit palais. C'était intéressant. Enfin, on aurait pu faire rien qu'un petit film. Moi, je vous ai juste montré ça parce que ça m'a fait immédiatement penser au voyage aux eaux thermales, si vous voulez, d'une princesse russe au début du XXe siècle, quoi. Elle était, elle était entourée, elle avait une suite et ainsi de suite. Elle était prisonnière de l'État français, mais le retour des cendres montre la place qu'on a voulu effectivement lui consacrer comme souveraine des hautes terres, enfin, et donc à cette époque considérée souveraine de Madagascar.
Il y a même les cartes postales en Algérie. De Gazer, c'est un des photographes les plus connus.
Oui, sur un Avalon.
Oui.
Ah oui, je ne savais pas. On a montré ce film à Madagascar dans une salle de cinéma qui est la plus grande de Tananarive à un public. L'entrée était gratuite et les gens étaient extrêmement intéressants. Les gens étaient extrêmement intéressés de découvrir ces images anciennes et l'histoire à travers ça. C'est une expérience fantastique à faire au point de vue. C'est-à-dire de voir sur un siècle après, d'un seul coup, des images animées et d'une partie de l'histoire et les débats qui ont suivi ça, c'était passionnant. Hein.
Je voudrais savoir si le pouvoir politique après l'indépendance, si elle ne se repose pas seulement sur la constitution, mais sur plusieurs images, c'est-à-dire celui d'avant, pendant et après.
C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est effectivement, il repose sur plusieurs images. Je vais vous donner un exemple. Hein. Le premier président de la, dont le président de la première république malgache, donc qui a pris ses pouvoirs en 1960, au moment de l'indépendance de Madagascar. Bon, j'avais pas le temps, mais je voulais vous montrer des images montrant Robert Debré, qui était là pour les cérémonies de l'indépendance de Madagascar, face à Philibert Tyrann, qui était donc le premier président. Ces images en elles-mêmes montrent quelque chose de fantastique. Il y avait, si vous voulez, le contentement de celui qui avait réussi son travail, en fait. Ça, je parle de Debré face à Tyrann. Il a mis en place donc ce président à la suite de toutes sortes d'enjeux politiques. Et Philibert Tyrann, qui était quelqu'un du nord-ouest de Madagascar, une région très proche du pays Sakalav, dans ses discours se présentait comme se présentaient absolument les rois malgaches, c'est-à-dire comme un intermédiaire, entre le peuple malgache et le divin. Alors il disait pas le divin, il parlait des ancêtres, mais ça revenait absolument au même. Et il s'est immédiatement, dans ses discours en malgache, hein, bon, c'est pas les discours qu'il faisait à l'Assemblée nationale, mais dans les discours qu'il faisait en malgache, dans ses déplacements populaires, il tenait à chaque fois et constamment ce genre de propos. C'était, bon, bien sûr, il s'est inscrit absolument dans cette tradition. C'est un exemple. Hein.
Ah oui. Déposer les armes devant. Et en fait, j'avais vu une photographie dans la charte de la Révolution socialiste malgache en 1975. Et c'est impressionnant parce que Didier Ratière, quand il arrive en 1975 au pouvoir, il lance comme son camarade disait un bateau de la mort nous vaincrons, Madagascar ne s'achemine pas. Et ça me fait penser à ça, justement. Et autre chose aussi, Didier Ratière, que justement, je trouve que ces systèmes anciens, les royautés, tout ça, dans tout le pays, est constamment, fait constamment appel à ces références de pouvoir d'un autre temps, quand on a besoin de valider quelque chose ou de. En 91, quand il y a les troubles à Madagascar et que Ratière tangue un peu, il présente des rois de toutes les provinces côtières pour dire, voyez, je suis aussi investi, je suis un représentant de Balab parce que, voyez, ces rois, ils viennent faire allégeance devant moi et ça passe à la télévision. Donc, bien sûr, c'est dépassé, mais c'est constamment, fait appel constamment à ces références-là.
Oui, c'est absolument ce que j'ai voulu dire, et, à savoir, enfin, en parlant de ces questions d'image, que, si vous voulez, c'est toute la question de savoir que, bon, moi, c'est un travail qui va sortir là prochainement, il y a un livre qui va sortir sur l'architecture funéraire qui montre ça aussi, c'est de montrer que, dans toute culture, il y a en quelque sorte, on pourrait dire ce terme un peu grossier, il y a un formatage de la sensibilité, bon, qu'on peut saisir à travers ces images, et que ce formatage de la sensibilité est une caisse de résonance qui constamment après, est dans l'exercice du pouvoir politique, auquel les dirigeants et les hommes politiques font appel, disons, pour tenir leurs troupes et puis pour exercer leur influence. Et que pour nous, en tant que chercheurs, anthropologues, historiens, peu importe, c'est un objet extrêmement intéressant à aborder et qu'on a besoin des images et des objets, hein, pour approcher ces questions.
Juste une question. Sur le titre, vous avez montré le départ de la reine malgache et établi complètement à l'occidental. Vous aviez montré juste avant une photo d'elle sur un trône en majesté. Et je voulais savoir si les attributs qu'elle avait là étaient malgaches ou si elle avait un lien.
Ben, écoutez, j'en sais rien. Le premier film, elle est à Alger. C'est pour ça que je vous dis, elle vit comme une princesse russe, parce que, enfin, elle vit comme une aristocrate européenne à cette époque, qui partait vivant une. Enfin, elle était entretenue par l'État français sur un certain pied. Bon. Et elle vivait dans une superbe maison au bord de la mer, etc. Enfin, avec vue sur la mer plutôt. Bon, mais le deuxième montage, c'est les montages des actualités de l'époque, si vous voulez, 1923, je crois. Donc, c'est une mise en scène de la reine sur son trône, mais ça, c'est le choix du réalisateur. Je ne peux pas... Elle est montrée là, dans une photographie qui a été prise, alors qu'elle était encore reine, de Madagascar.
C'est la photographie que vous avez montrée.
Oui, au début.
C'est une photographie de William Ellis.
Voilà, c'est celle dont vous parliez.
1893-14,
oui. Quelque chose comme oui. ça, voilà.
C'était un missionnaire anglais.
Oui, c'est ça, ministre.
Mais pardon, comment le changement de l'apparat extérieur n'a pas changé de sa place dans la communauté malgache? C'est-à-dire, sa popularité, d'après ce qu'on a vu, que sa popularité a augmenté au lieu de diminuer, même avec l'apparat occidental.
Mais ça, c'est tout un débat, c'est ça qui est intéressant, justement. Le retour des cendres de la reine dans les années 20 à Tananarive, la reine, qui était d'ailleurs que la reine du royaume d'Imerne, hein, bon, parce que le royaume d'Imerne n'avait pas pris son influence politique sur l'ensemble de l'île, n'empêche, est apparu pour beaucoup de Malgaches comme le symbole de l'identité de Madagascar face aux étrangers qui occupaient maintenant ce pays, c'est évident. Et la foule qui est là présente est extrêmement. Montre très bien ça. Et d'ailleurs, l'émotion à Tananarive, quand on a montré ce film à nouveau, était du même ordre, si vous voulez.
Non, moi, je parle du niveau de l'apparat.
Oui.
L'apparat occidental, c'est le vêtement occidental, comme vous dites, comme une princesse russe.
Oui, oui, oui.
Il n'a pas diminué de sa place dans son propre pays, c'est ça. Est-ce que, à quoi on peut attribuer ça?
Mais écoutez, je vais vous dire que les rois d'Imerne... s'habillait à l'occidental à partir de deuxième moitié du 19e siècle, étaient habillés absolument comme leurs cousins des royaumes d'Europe, suivant les mêmes modes, etc. Si vous alliez dans le palais de Tananarive dans les années 1870-80, disons, eh bien, vous aviez les meubles Napoléon III et les crinolines de l'époque, etc. Absolument. Et d'ailleurs, elles étaient extrêmement avides de tout ce qui pouvait arriver par les steamers anglais ou français. Toutes les dames de la société, de la bonne société de l'époque, entre guillemets, extrêmement avides de tous les costumes qui étaient à la mode dans les grandes villes européennes. Et tout, qui étaient suivis, d'ailleurs, il y avait des couturières qui avaient été formées pour reproduire ça. Ça va très vite, ce genre de choses. C'est très intéressant, d'ailleurs.